Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial de Noizees. Je suis Pauline Ayoun et je fais partie de l'équipe de Bababam, le studio qui a justement développé Noizees. Alors Noizees, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aujourd'hui une trentaine d'épisodes de fiction qui font partie d'une anthologie. Donc ce sont des épisodes unitaires qui nous permettent à chaque fois d'être embarqués dans des univers hyper différents, des univers uniques. Pour cette troisième saison, du coup, les épisodes ont tous été imaginés par 10 auteurs, 10 autrices, 10 collectifs d'auteurs que nous, en tout cas chez Bababam, on considère comme la crème de la crème des auteurs et autrices de fiction sonore. Alors, on a reçu beaucoup de questions de nos auditeurs et de nos auditrices sur les coulisses de production d'un tel podcast. Et du coup, à cette occasion, on a décidé, à travers 3 épisodes bonus, de vous dévoiler quelques-uns de nos secrets. Dernièrement, nous sommes revenus sur le traitement des faits historiques dans les fictions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dystopie dans le podcast. À cette occasion, on reçoit à notre micro Mehdi Bayat. Bonjour Mehdi.
Salut.
Alors Mehdi, tu es auteur et réalisateur. Tu as écrit le dernier épisode de Noizees qui s'appelle Ami. Tu as aussi écrit pour le théâtre, pour des web-séries, mais du coup aussi pour le podcast. Tu as assuré l'écriture, l'interprétation et la réalisation de 4 fictions radiophoniques, dont 2 séries dystopiques, Nuit Blanche et Lumière Noire, diffusées en France et en Belgique en 2020. Tu as reçu beaucoup, beaucoup de prix pour tout ton travail. Tu es lauréat du Fonds Podcast Natif France Culture SACD pour ta série radiophonique Fureur, réalisée par Laure Egorov. En 2020, tu as écrit et réalisé la série Bisous à demain, sélectionnée au Paris Podcast Festival 2021. La même année, tu écris, interprètes et réalises la fiction sonore Rouge Vif, diffusée sur La Première. Puis, elle a été ensuite jouée en septembre 2021 sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris. Cette œuvre remporte le prix international de la fiction au Fonurja Nova Awards, le premier prix de la fiction au Bruxelles Podcast Festival et le prix du meilleur scénario au festival La Nuit Sans Images. Et en 2022, tu réalises le podcast Tous à Métergal pour Classique 21 et Jeune Vieux Con pour La Première. Et tu obtiens la même année, du coup, le prix SACD Nouveau Talent Radio 2022. Est-ce que parmi tout ça, Mehdi, j'ai oublié quelque chose ?
Non, mais je sais pas ce qu'il leur a pris de me donner autant de prix, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, c'est super. Je crois que c'est bien exhaustif. Je crois qu'il y a tout.
J'ai essayé d'être exhaustive. Alors, on va revenir sur ton travail un peu plus tard, mais avant, laissez-moi donc vous présenter Nathalie Bernaz. Donc, Nathalie, c'est toi qui as réalisé l'épisode Ami pour Noizees. Donc, toi, tu es comédienne au théâtre et metteuse en scène. On a pu te voir en 2007 dans Pour ceux qui restent de Pascal Elbé et dans les pièces courtes d'Ivan Viripayev avec la compagnie Callisto. En 2009, tu intègres la compagnie des Aléas et tu joues dans Horowitz Mise en pièce et Le Premier d'Israël Horowitz. Et depuis 2014, tu fais partie du collectif Attention Fragile à l'affiche d'Irrésistible de Fabrice Roger-Lacan, de Cabaret Amer et de Building de Léonore Confino, dont tu signes la commise en scène. Tu fais partie du monde merveilleux du podcast depuis 2019 et tu travailles beaucoup avec nous, avec Bababam, notamment pour Noizees, Silencio et Boulet Bill aussi, disponibles sur Amazon Music. Nathalie, première question, comment passe-t-on de la scène au podcast ?
Ben, ça s'est fait de façon un peu hasardeuse, mais en fait, c'était une très bonne chose. Ça faisait un petit moment que moi, je voulais mettre en scène au théâtre. Voilà, donc les projets arrivaient, mais ça c'était pas encore fait. Et donc, j'ai rencontré Pierre, qui m'a proposé de travailler pour lui. Et
donc,
en fait,
Pierre,
j'ai trouvé ça...
Pierre, qui est le fondateur de Bababam.
Voilà, Pierre, qui est le fondateur de Bababam, qui, au tout début, me demandait juste de l'aider à trouver des voix pour des podcasts, puisque bon, j'ai pas mal de comédiens et comédiennes que je connais. Et puis, de fil en aiguille, il m'a demandé de réaliser les épisodes de la première saison de Noizees. Donc ça, c'était en 2019. Et en fait, ça a été une vraie découverte. J'ai appris sur le tas beaucoup. J'ai travaillé avec des comédiens que je connaissais. Donc, il y avait une vraie osmose avec les comédiens. Et j'ai adoré mettre en scène à l'audio. J'ai adoré réaliser de l'audio parce qu'en fait, je pense que j'aime bien tout ce qui touche à l'humain et tout le travail psychologique qu'il peut y avoir avec les comédiens. Et j'ai vraiment découvert ça sur le podcast. C'est comme de la mise en scène au théâtre, sauf que c'est décuplé parce qu'il faut que l'auditeur puisse imaginer tout ce qui se passe à l'audio. Donc, les voix ont une importance cruciale. Donc, j'ai découvert tout le travail de casting, de voix que j'ai adoré faire. Vraiment trouver la voix pour le bon personnage, pour que tout de suite, en fait, l'auditeur s'identifie au personnage. Ça a été vraiment une une découverte incroyable et j'adore faire ça. J'adore réaliser des podcasts.
Voilà. Alors, vous avez tous les deux travaillé ensemble pour l'épisode Amis, donc toi, Nathalie, à la réalisation et toi, Mehdi, à l'écriture. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez me pitcher en quelques mots, du coup, le concept de cet épisode?
Ok, bah, si, je fais de très mauvais pitchs à chaque fois, il paraît. Alors,
je compléterai.
Alors, c'est l'histoire d'un couple et leur enfant dans un appartement, donc c'est un huis clos, dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, c'est jamais clairement défini. Et il y a un petit problème qui est caché sous le tapis et qu'on découvre petit à petit au fil de la fiction entre ces trois personnages. Voilà, et c'est un futur dans lequel, pour ne pas trop spoiler, mais en parler rapidement, tout est fait pour que qu'il y ait le moins de frustration, de surprise ou d'altérité, pour que les gens soient ben dans une espèce de cocon de bien-être perpétuel sur fond d'algorithmes ou d'intelligence artificielle qui connaissent, prédisent à l'avance nos désirs et les réalisent. Donc on n'a pas, on n'est jamais confronté à l'inattendu. Et je pense que c'est ce qui nous attend, ce qui se profile dans un avenir très proche, voire déjà dans le présent. Voilà, c'est un petit pitch.
Écoute, c'est plutôt clair, Nathalie. Ouais. Est-ce que tu as besoin
Non, non, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est assez clair. Et puis, on risque de spoiler en plus si on rajoute des éléments. Mmh. Donc, voilà, mais c'est assez clair ce que tu viens de dire. Ouais, c'est très bien. Tu l'as écrit, donc en même temps.
Mais j'aime bien. Moi, je trouve que les histoires les plus cool, les plus intéressantes, c'est celles qui ne peuvent pas être pitchées. Je trouve ça marrant. Ça veut dire que si tu commences à, si tu peux décrire parfaitement l'histoire, c'est qu'il n'y a pas trop de surprises et que ça risque pas de prendre une autre route, a priori. Et donc, si tu peux pas la pitcher, je trouve que c'est un très bon signe.
Oui, en général, ça donne envie d'aller plus loin et envie d'écouter le podcast, du coup.
Mmh. Ben là, il s'avère que, en plus, ça a été écrit, c'est assez ouvert, quoi. C'est-à-dire que là, sur l'enregistrement qu'on a fait avec les comédiens avec lesquels on a travaillé, je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard, mais la fin de l'épisode, finalement, est assez ouverte et l'auditeur peut vraiment imaginer ce qu'il veut. Donc, c'est ça qui est aussi très, très intéressant. On reviendra sur la dystopie parce que ça va vraiment avec, mais c'est ça qu'on a trouvé très intéressant, nous, avec les comédiens, dans le travail sur le texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pistes de lecture. Et voilà, et c'est d'autant plus jouissif, en fait, c'est d'autant plus jouissif pour des comédiens de travailler là-dessus et pour une réalisatrice de se dire, voilà, c'est ouvert et on laisse l'auditeur à l'audio, parce qu'en plus, il n'y a pas d'image, donc ça renforce complètement tout le côté imagination, imaginaire, et de se dire, bon, bah, on vous laisse et à vous de faire votre petit chemin avec cet épisode, quoi.
Alors, toi, Mehdi, tu as l'habitude d'écrire des dystopies. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots ce qui caractérise une dystopie ?
Je crois qu'il s'agit de rendre compte du présent à travers une fiction qu'on campe dans un avenir plus ou moins proche, en grossissant les traits de problématiques contemporaines propres à notre société, qu'on peut déjà repérer en filigrane, mais qui peuvent se transformer en menaces catastrophiques dans l'avenir. Voilà.
Ok, donc c'est quelque chose qui...
En une seule phrase.
T'es hyper
longue
fort.
Phrase. Donc, dans une dystopie, on dénonce forcément quelque chose, selon toi ?
Oui, il me semble. Après, c'est le truc le plus intéressant, je trouve, avec la dystopie, c'est un peu ce que j'ai dit, mais en gros, c'est qu'on te donne l'impression de parler d'un truc extrêmement lointain, alors qu'en fait, tu vois, ou je sais pas si tu parles de robots ou de voyages ou de sociétés totalitaires extrêmes, en fait, il s'agit juste de parler du présent à chaque fois. Donc, c'est simplement une excuse pour mettre en lumière, en grossissant les traits, des phénomènes qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui et peut-être des phénomènes qui commencent à peine, qu'on peut observer ou parfois qui sont passés sous silence, mais qui, s'ils prennent de l'ampleur dans les prochaines années, peuvent devenir catastrophiques. Et donc, à chaque fois, ça part de là. Et puis, en tirant un peu sur le trait, après, bah, t'as des monstres sacrés de la dystopie. C'est Huxley, Orwell, Ray Bradbury. En fait, à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de société qui tend à quelque chose d'absolu. Genre sécurité absolue, dans bonheur absolu, dans le meilleur des mondes, ou ignorance absolue dans Fahrenheit 451. Donc c'est un espèce de monde total, et après ça passe par, avec la volonté hégémonique un peu, de faire disparaître toutes les aspérités et de nous amener à un contrôle parfait sur nos vies.
Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose, du coup, sur la dystopie, c'est souvent apparenté aussi au genre de la science-fiction, mais c'est quand même différent. C'est-à-dire que la science-fiction va mettre en avant, voilà, des avancées technologiques qui vont être très fortes. Par exemple, les robots ou ce genre de choses. Mais la dystopie, elle, va plutôt être, et c'est exactement ce que tu dis, Mehdi, c'est-à-dire que c'est le présent, finalement, qu'on dépeint dans un futur proche. C'est-à-dire que ça va être plus axé sur le comportement humain. Ça va être beaucoup plus axé là-dessus que sur un monde... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément fantastique dans une dystopie, alors qu'il peut y en avoir en science-fiction. En science-fiction, on peut avoir des métamorphoses humaines, on peut avoir des choses qui se passent à la limite du surnaturel. Or, dans la dystopie, c'est pas du tout ça, quoi. On est vraiment dans un monde qui peut être ce monde-là demain. Si on prend Years and Years, par exemple, cette fameuse série qui a été réalisée récemment, elle commence vraiment dans les années là, 2024-25, il me semble, ou 2022 même peut-être. Et c'est vraiment, ça prend la société telle qu'elle est, avec les comportements humains et des volontés politiques qui font qu'on veut essayer de tendre vers une utopie, mais en fait, ça va devenir une contre-utopie et la dystopie va dépeindre ça, quoi. Un monde où c'est pas les avancées technologiques qui sont mises en avant, mais c'est plutôt les comportements humains.
Et c'est l'humain qui va être inquiétant plus que
exactement
tout le surnaturel
exactement
qu'on peut avoir dans une science-fiction.
Ouais, c'est vraiment le comportement humain et en général les volontés politiques qui vont être plus inquiétantes et angoissantes que les avancées technologiques qui prennent pas le pas, qui sont juste qui servent en fait l'humain dans les dystopies.
En SF pure brute, mais tu as les évolutions technologiques et après ça permet juste de poser un cadre dans lequel l'intrigue peut se dérouler, presque peu importe l'intrigue. Et vraiment la dystopie, ça analyse les courants sociologiques en fait, ce qui nous traverse et les questionnements liés à l'égalité, la liberté, etc. Et c'est des questions un peu plus intemporelles, métaphysiques, qui se rattachent à des volontés politiques. C'est ce que tu disais, c'est des grands choix de société, quoi.
Exactement, ouais. Mm-mm.
Merci à tous les deux pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer la discussion. Et donc, toi, Nathalie, tu as déjà réalisé une dystopie en podcast, donc Silencio, que Bababam a produit, donc une dystopie écrite par Thomas Le Petit Corps. Alors, c'était deux exercices hyper différents parce qu'il y a une série longue sur 10 épisodes. Et un épisode vraiment unitaire. Est-ce qu'il y avait quand même des points communs dans ces deux exercices qui étaient quand même très différents l'un de l'autre ?
Oui, le point commun, ça a été le travail en fait avec les comédiens. Je rebondis sur ce qu'on vient de dire. Comme dans la dystopie, il n'y a pas d'éléments fantastiques ou surnaturels. Le travail qui était très important avec les comédiens, c'était de les rendre le plus sincères possible. Et c'est ça qui va être d'autant plus angoissant. C'est-à-dire qu'il faut que les comédiens vivent des situations auxquelles les auditeurs peuvent en fait s'identifier complètement. Il faut que les auditeurs s'identifient au personnage. Et c'est là où ça va être très angoissant. Je reprends Years and Years parce que c'est vraiment moi une série qui m'a marquée. Mais c'est pareil pour Black Mirror ou ce genre de choses. Quoique Black Mirror, c'est un tout petit peu différent. Years and Years, j'ai trouvé que c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ça peut nous arriver demain. Et je trouve que pour le spectateur, on s'identifie complètement au personnage, on s'identifie complètement aux situations. Voilà, on suit l'histoire d'une famille dans Years and Years et en Angleterre, et puis les années passent et tous les changements politiques, économiques, sociaux qui nous pendonnaient arrivent dans cette série. Et pour Silencio, c'était pareil. C'est pareil, c'est un futur très proche. Et en fait, il me semblait que le plus important, c'est la sincérité des comédiens pour ce travail-là. Parce qu'il faut absolument que l'auditeur, si on veut vraiment jouer la dystopie et le côté angoissant, il faut que l'auditeur se dise « Ok, ça peut m'arriver à moi demain. » Et en fait, c'est flippant ce qui se passe. Donc ça a été vraiment le point commun sur ces deux exercices, qui finalement n'étaient pas tant que ça différents. Silencio, ça a été dans la durée. Il y a un trick à un moment donné, je ne dévoile pas pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore écouté, mais qui fait qu'il y a quelque chose d'un peu différent de Ami, mais de l'épisode donc de Noises. Mais vraiment, c'était ça, quoi. Il fallait rendre ça le plus
réaliste
possible. Ouais.
Et toi, Mehdi, du coup, par rapport à tes deux autres fictions dystopiques, donc Nuit Blanche et Lumière Noire, c'était quoi le challenge sur cet épisode de Noises ? Juste, je rappelle que la façon dont on a travaillé, c'est qu'en fait, on t'a donné totalement carte blanche pour écrire cet épisode. Il y avait une seule ligne directrice, si je puis dire, c'était qu'il fallait que ce soit réalisé comme un plan séquence au cinéma, donc pas d'ellipse, pas de saut dans le temps, pas de changement de lieu, etc. Est-ce que déjà ça a été un challenge pour toi à relever, et même par rapport à tes autres fictions, comment tu as abordé ce travail-là ?
Ça m'allait très bien parce que je crois, en fait, en y réfléchissant bien, que tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, il n'y a jamais d'ellipse Enfin, je m'étais déjà questionné là-dessus, je crois que je déteste ça, et j'essaie de faire des trucs en unité de temps, unité de lieu à chaque fois, ce qui est un peu problématique vu que tu dois raconter différemment et parfois t'es piégé, mais du coup ça m'allait très bien. Je trouve que c'est parfois c'est plus compact et ça se tient, et enfin voilà, c'est une petite règle que je suis en fait dans toutes les fictions. Et après non, mais c'est toujours agréable d'écrire un huis clos aussi. Je trouve que tu peux travailler un peu plus la personnalité au fond des personnages, t'amuser, casser des codes, les faire revenir, etc. C'est un exercice super marrant. Et puis le fait qu'il y ait une liberté totale, ça permettait, enfin je me demande un peu, parce que j'ai pas encore écouté les autres fictions de l'anthologie, si on va retrouver en fait parfois, peut-être sans s'être concerté, des traits communs, peut-être dans la façon de raconter ou les... J'ai vu qu'un autre épisode s'appelait Amitié. Donc, j'aurais dû changer de titre.
Non, c'est pas du tout la même histoire.
Ouais, c'est pas la même histoire du tout.
Non, mais voilà. Mais c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'écouter les autres. J'ai déjà écouté les deux premières, qui étaient très, très cool. Mais non, l'exercice me plaisait beaucoup. Après, une nouvelle, c'est... Moi, je trouve l'exercice très compliqué de la nouvelle, parce que tout doit se tenir.
De l'épisode unitaire.
Oui, c'est ça. Ouais, en fait, en très peu de temps, tu dois réussir à installer, développer et conclure... Les arches un peu de tous tes personnages, plus le sujet central, avoir un espèce de climax, et puis trouver une fin adéquate par rapport à ce que tu as installé et tout ça en, je sais pas, entre 10 et 20 minutes ou 15 minutes.
Ouais, exactement.
Minutes.
Ouais.
Donc c'est un exercice, mais ça, c'est un exercice compliqué aussi en termes de réalisation, je suppose, là, et en termes de direction d'acteur et d'actrice, parce que là aussi, en fait, tu dois. Enfin, tout est très compact et en même temps, il faut quand même que ça respire, mais tu ne dois pas perdre l'attention, mais tu dois... Enfin voilà, il y a tout un cheminement à créer en termes de réalisation au sein d'une seule boucle. Donc ça aussi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que en écoutant cet épisode, j'étais... Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était du super boulot fait par Nathalie, parce que pour que tout se tienne et que le rythme soit super bon, dense, mais que ça respire, c'était un exercice très compliqué.
Nathalie, du coup, tu veux ajouter quelque chose?
Merci Mehdi, et puis je te renvoie le compliment, parce que le texte était justement bien écrit. C'est un exercice très compliqué d'avoir un début, un milieu, une fin, que tout ça tienne en un quart d'heure, 20 minutes. Enfin voilà, c'est un beau défi et tu l'as très très bien relevé. Et après, effectivement, avec les comédiens, l'idée, c'est de réussir à faire ressortir les émotions sur une phrase, sur une respiration. Donc, pour le comédien, c'est un exercice aussi difficile, mais en même temps, c'est très excitant, parce qu'il faut réussir à faire en sorte que les émotions passent de façon très rapide et en même temps à travailler les ruptures, travailler les silences, ce que le texte permettait. Donc ça, c'était vraiment chouette, comme tout, parce que ça, voilà, dans les temps de silence, en fait, l'auditeur aussi a le temps de gamberger, de se dire, mince, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, puis il y a la tension qui monte.
Exactement,
aussi,
ça fait monter la tension.
Ça installe un peu une ambiance un peu inquiétante aussi.
Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est un travail un peu... C'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais c'est ce que j'avais aussi dit pour Silencio, c'est un travail d'orfèvrerie avec les comédiens, quoi. C'est-à-dire que chaque réplique a son importance sur un format aussi court, ce qui du coup est différent de Silencio, pour rebondir sur ta question précédente. Voilà, sur Silencio, on avait 10 épisodes, on avait le temps d'installer tranquillement les choses. Là, sur un épisode de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il faut tout de suite que ça soit... Ça doit être très incisif. Ça doit être clair, net. Les intentions doivent être tout de suite justes, ainsi que les silences, parce que les silences apportent énormément, l'attention notamment. Donc, c'est un travail... extraordinaire à faire avec des comédiens, vraiment.
Et on salue aussi le travail de...
Exactement, de
monteur,
Jean-Gabriel
Raffa, ouais. qui a su un peu concrétiser tout ce travail
complètement.
Qui vient tout droit de votre imagination, quoi.
Mais c'est
ça qui est fascinant, quoi. Tu vois, bah, par exemple, c'est plusieurs cerveaux réunis sur un seul truc. Moi, je trouve ça incroyable. Tu vois, parce que même, enfin, c'est ça, au montage, tu racontes aussi quelque chose, hein. Si la voix empiète, dans les silences, dans le rythme, dans à peu près tout. En fait, à toutes les étapes, les comédiens, comédiennes s'approprient aussi le texte, en font quelque chose. La direction d'acteur, en vrai, toutes les étapes, il y a un autre regard qui arrive sur la même histoire, enfin, le même texte. Et chacun de nous arrive avec son propre passé, son propre ressenti de ce qu'il est en train de lire ou de comment il perçoit la chose. Et tout ça fait un espèce de bouillon, et je trouve ça vraiment incroyable, le résultat. Parce qu'on a tous, très certainement, une idée un peu différente. Et comment la faire coïncider vers un seul objet artistique, c'est un procédé juste dingue, en fait.
Je voulais juste rebondir sur ce que Mehdi a dit tout à l'heure concernant les plusieurs cerveaux qui se mettent en œuvre sur un travail comme ça de podcast. Je trouve que le podcast, aujourd'hui, c'est encore un domaine dans lequel on valorise énormément et les auteurs, et les réalisateurs, et tous les gens qui font la post-production, notamment là dans le cadre de Noises. Et je trouve ça très important parce que les scénaristes sur des films ne sont pas forcément très connus, par exemple. On va souvent au cinéma voir un film pour un acteur ou pour un réalisateur, mais pas forcément pour un scénariste. C'était le cas dans les années 70-80, mais là, c'est plus le cas. En tout cas, c'est moins le cas. Et je trouve ça très important. Moi, j'ai adoré travailler avec Mehdi sur cet épisode. J'ai adoré aussi travailler avec Thomas sur Silencio. Je trouve qu'il y a eu un échange entre les auteurs et en l'occurrence, moi, la réalisatrice, qui est très riche d'avoir le point de vue de l'auteur, le point de vue des comédiens, le point de vue de la personne qui réalise. Il faut vraiment continuer de valoriser ça. Je sais que chez Bababam, vous le faites et je trouve ça absolument super parce que les auteurs sont valorisés. C'est hyper important parce que sans auteur, on n'a pas de script et du coup, on n'a pas de podcast. Je voulais juste notifier ça parce que j'entends souvent au cinéma ou au théâtre, c'est un peu différent, mais au cinéma, que ça peut être parfois compliqué pour les scénaristes
d'être reconnus pour leur travail.
Ouais. Pour leur travail, même pour des séries en télé. Et voilà, je trouve ça très important et je trouve que le monde du podcast a encore ça et il faut le préserver, c'est précieux. Voilà, c'était ma petite... mais voilà, je trouve ça important à dire, quoi.
Mehdi, tu veux rebondir sur ce qu'a dit Nathalie ?
Oui, pas mieux, merci, ouais, ça s'est super bien passé. Et effectivement, le travail d'auteur est vraiment reconnu chez Bababam. Je ne fais pas de la pub comme ça, freestyle, c'était vraiment bien. Et puis le travail aussi avec Nathalie, très intéressant à l'écoute. Et donc ça, c'est ça c'est super. Et c'est à valoriser, c'est clair. On trouve pas ça partout.
On en revient à la dystopie. Donc pourquoi Mehdi, t'as de nouveau souhaité nous proposer un épisode de ce genre dystopique, du coup ? Et pourquoi la dystopie dans ton travail, elle prend une place aussi importante ?
Mais les prochaines fictions seront super gentilles et poétiques. Et il y aura de l'amour du début à la fin. Non, je sais pas, j'ai un petit peu... Mais oui, en plus, je viens de finir d'écrire une autre... Ouais, j'ai un petit tropisme pour les fictions dystopiques, je sais pas.
Et d'où ça vient ?
Bah, je pense que je suis un peu furieux, peut-être sur 2-3 trucs qui déconnent aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de... Et ça fait... je sais pas, ça nourrit beaucoup l'imagination. Je veux dire, il y a suffisamment de matière aujourd'hui pour... pour esquisser un petit peu à 2-3 fictions. Mais je pense que je vais continuer à en écrire beaucoup. Là, je viens de finir d'écrire une autre petite série dystopique pour France Culture, qui est aussi en huis clos, et dans le même ordre d'idées, quoi. Je me suis amusé à faire un truc. J'aime bien aussi, mais je crois que c'est peut-être par facilité, attraper l'attention de l'auditeur par la terreur et l'oppression. C'est un peu facile, en vrai, mais la dystopie s'y prête bien. Surtout en huis clos et surtout avec une unité de lieu et de temps. Et là, tu peux attraper, secouer, terrifier. Ça me plaît pour l'instant. Mais après, en plus, ce que je trouve marrant là-dedans, c'est que une fois que tu as joué avec ces émotions-là un peu obscures, etc., c'est encore plus intéressant de pouvoir trimballer l'auditeur ou l'auditrice vers par exemple, du rire ou, je sais pas, en tout cas, de l'emmener ailleurs vers de la légèreté, etc., si tu as déjà créé un tapis un petit peu oppressant.
Complètement. Et ça marche d'autant mieux. Enfin, je trouve que ça marche en plus parce que Noises s'écoute au casque. Mmh. Et je trouve que du coup, tout ce qui est sentiment d'angoisse et de terreur, tu peux vraiment... c'est génial, quoi. C'est génial, t'es au casque, tu fermes les yeux et là, tu plonges dans cette fiction. Il n'y a que ça, t'es perturbé par rien d'autre. Oui. Donc l'angoisse, la terreur, toutes ces choses-là sont des sentiments qui sont super à véhiculer par cette façon d'écouter ce podcast, quoi.
Par exemple, dans la dystopie ou dans le fantastique, ce qui est super, je trouve, c'est qu'il y a un peu... En fait, tu instilles quelques gouttes de bizarrerie. C'est-à-dire que ça ressemble plus ou moins à notre réalité, mais il y a des choses qui sont impossibles ou qui n'existent pas. Et ces choses-là, impossibles, c'est encore plus intéressant au format audio parce que, du coup, tu peux déjà te contenter de les suggérer. sans jamais les expliciter. Et donc, l'auditeur va se faire le film de tout ce qui est futuriste ou qui n'a rien à foutre là ou qui est un peu flippant dans la pièce, tu vois, ou autour. Et donc, plus tu t'enfonces dans le fantastique ou dans des choses un petit peu comme ça, hors de notre monde, plus le format audio se justifie. Et là, tu fais travailler à fond les ballons l'imagination de celui ou celle qui écoute, quoi.
Ouais, complètement.
Et Mehdi, du coup, c'était quoi tes inspirations pour écrire ce scénario précis ? Pourquoi une famille ? Pourquoi dans cet endroit-là ? Comment, justement, les choses que tu voulais dénoncer, elles se sont concrétisées à travers cette scène-là ?
Aussitôt après l'avoir terminé, je l'ai fait lire à ma copine. C'est un peu un rituel obligatoire. Et elle m'avait dit, oui, elle m'avait parlé des robots, parce qu'il est question de robots dans l'histoire. Et elle m'avait demandé pourquoi je voulais parler de ça, etc. Et en fait, on a eu toute une discussion où je disais, non, cette histoire, enfin, ou alors j'ai peut-être pas réussi, mais cette histoire parle de tout sauf de robots. C'est un prétexte. Et en fait, le sujet de fond, c'est le fait qu'on soit petit à petit nous-mêmes. Hein, tu vois, c'est ce dont on parlait juste avant dans la dystopie. Tu utilises un prétexte. Parfois un truc futuriste ou quoi, pour parler de quelque chose d'extrêmement actuel. Et là, le robot, enfin moi je m'en foutais un peu dans l'histoire, c'est pas ça. Il est question en fait de nous qui sommes en train de devenir des robots. C'est plutôt métaphorique. Et donc, ou du fait que petit à petit, on aille vers quelque chose d'aseptisé, je le disais tout à l'heure, avec une absence de frustration et le fait que, par exemple, des algorithmes sachent avant nous ce qu'on, par exemple, nous recommande des musiques sur Internet, des films, ou même nous publie, je sais pas, sur Facebook ou ailleurs, des opinions politiques qui sont en accord avec les nôtres, ce qui fait qu'on n'est plus du tout en confrontation avec l'altérité, la différence, la frustration, le choc. Voilà. Et en fait, c'est ça qui me terrifiait, c'était ça le sujet de fond. Et pour revenir à ta question, du coup, ce qui m'a inspiré, c'était, je crois, une discussion d'Alain Damasio, qui était dans une interview, je sais plus laquelle, je sais plus où, mais qui parlait exactement de ça, de sa crainte de voir notre univers se réduire à des choses confortables, en accord avec nous-mêmes, et en fait, du coup, se rabougrir et nous rendre aigris. Parce que plus confronté, plus jamais confronté à la différence, à la surprise et à ce qui nous nourrit en fin de compte, et ce qui nourrit notre esprit critique. Et donc ça vient de ce petit passage que j'avais vu de Damasio. Et après, il y a des inspirations un peu plus classiques. Je parlais tout à l'heure du meilleur des mondes d'Huxley, mais c'est vraiment ça. Une société qui cherche qui cherche à tout prix le bonheur parfait, c'est le pire des cauchemars, quoi. Donc voilà, c'est un peu. Mais il y a mille et un bouquins de SF ou de bouquins un peu dystopiques. Qui rentre là-dedans.
Et toi, Nathalie, on l'a dit tout à l'heure, c'est un huis clos, donc c'est assez proche au final du théâtre. Est-ce que tu as des inspirations aussi précises ? Tu as eu des inspirations précises pour cette mise en scène ?
Pour reprendre là sur cet épisode, effectivement, c'est le robot est un prétexte et en même temps, il est présent partout dans nos vies. Donc moi, vraiment, là, mes sources d'inspiration, c'était le quotidien et c'était ce qui se passe autour de nous. Vraiment, je reviens sur cette sincérité que les comédiens devaient avoir parce que c'est ce qui se passe autour de nous, quoi. Les algorithmes, on est sur un téléphone, on parle d'un truc, hop, on a une publicité qui arrive sur cette même chose. Enfin, je trouve que Moi, ce genre de choses, ça m'angoisse terriblement. Je trouve ça assez effrayant, tout ce qui se passe sur les téléphones avec les algorithmes. Et du coup, voilà, moi, ça a été ma source d'inspiration, ça a été le quotidien, ça a été, mais même de voir ma famille et mes enfants, quoi, tout simplement, hein, de voir comment eux sont accrochés. C'est une génération qui a toujours connu les téléphones, les écrans. Malgré tout, c'est très confortable. On peut accéder tout de suite. On a besoin de connaître un truc. Hop, on va sur un écran. Enfin, il y a une immédiateté. Tu parles de frustration, Mehdi, mais c'est ça. Il y a une immédiateté là dans la vie tous
les
jours.
Oui, on a tout à dispo.
On a tout à dispo tout le temps.
Qui nous aide dans notre quotidien.
Exactement. Là, je vois, nous, on a un Google Home à la maison. Voilà, les enfants, c'est tout de suite. C'est OK, Google, OK. Et ils ont vraiment ce réflexe et c'est ancré, c'est devenu hyper instinctif, voilà, et moi ça m'angoisse, donc du coup ça me parlait énormément ce script parce que voilà, de vivre dans un monde où on a l'impression que tout est possible, que tout est accessible tout de suite, tout le temps, moi ça m'angoisse, donc j'espère avoir réussi à transmettre aux comédiens ça et à transmettre dans, mais ouais, c'est quelque chose, et en même temps c'est super de parler de ça, de défendre ces idées là mais moi mon quotidien et les gens autour de ont été vraiment très, très inspirants pour ça. Et on a un peu ça au théâtre aussi. Voilà, ça commence pas mal à arriver, ce genre d'univers. On voit des dystopies au théâtre aussi. Il y en a. Mais voilà, il suffit de regarder autour de soi pour Juste, c'est la meilleure source d'inspiration, quoi. De voir les gens, les comportements des gens, si on va sur l'humain. Voilà. Donc, et puis, pour tout ce qui est post-prod, j'avais parlé à Jean-Gabriel, mais il y a un film aussi de Jean-Pierre Jeunet qui était sorti, Big Bugs, il me semble, sur pareil, un monde où tout est très robotisé. Une famille vit dans une maison et c'est les robots qui s'occupent vraiment de tout. Voilà, ça, ça a été aussi juste en fond, quoi. Pas dans le jeu des comédiens, mais en termes d'ambiance aussi sonore, tout ça, je trouvais que c'était assez intéressant. On en parle, quoi, de ça. Je trouvais que c'était assez intéressant en termes d'inspiration.
Mais dis, tu veux ajouter quelque chose?
C'est vrai que, enfin, moi aussi, ça me terrifie particulièrement parce qu'en fait, c'est le sujet qui est traité un peu dans cette fiction, c'est que c'est une pente, enfin, vraiment raide et très glissante parce que on a envie, en fait. C'est, je veux dire, tout est plus simple. Si, je vais pas me lancer maintenant dans une critique sociologique de ce qui nous attend, mais en vrai, si, enfin, c'est tellement confortable, tu vois. On te propose, t'as pas à choisir, t'as pas à faire d'efforts. Par exemple, si tu as un truc OK Google dans ta maison, tu dis deux phrases plutôt que d'avoir à te déplacer. Je reviens un peu sur ce truc de Damasio, c'était fou parce que ça me revient maintenant. Il explique. En fait, mais c'est assez élémentaire. Mais par exemple, si dans un avenir proche, c'est en tirant un peu sur le fil, mais de ce qu'il y a déjà aujourd'hui, mais si dans un avenir proche, par exemple, tu as face à toi une intelligence artificielle ou un robot qui sera toujours d'accord avec toi, qui va rire à tes blagues ou qui va te contredire, quand t'as envie d'être contredire parce qu'il le saura dans son algorithme. Mais en fait, il y a plus aucun intérêt à être avec un humain parce que c'est mille fois mieux là. Tu as quelqu'un qui va être toujours sympa avec toi, toujours merveilleux, et donc en fait, dans ce cas-là, bah, tu restes chez toi avec ton robot et ça n'a aucun sens d'aller rencontrer des humains puisqu'on est imparfait, on est colérique, parfois on a des réactions de merde. Voilà, le robot sera juste parfait avec toi tout le temps et c'est merveilleux et c'est une mort lente et terrible. Voilà, pour nous mettre de bonne humeur.
Merci à tous les deux pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer la discussion. Pour finir, est-ce que chacun et chacune, vous avez des recommandations de podcasts de fiction, dystopiques ou pas, à nous recommander ? Ou même des œuvres dystopiques, hein, que ce soit des bouquins, des films, des pièces de théâtre. Si on veut rester dans le thème, allez, partons sur la dystopie.
Ben, moi, en ce moment, je lis La Servante écarlate. Voilà, qui est une dystopie. J'aurais dû lire ce livre il y a bien longtemps, mais alors c'est sorti en série aussi. Voilà, ça a été adapté. Donc, je ne l'ai pas encore regardé parce que je voulais lire le livre avant. Et donc, c'est un monde, juste pour dire en deux mots, un monde dans lequel la fertilité est terriblement en baisse, voire quasi nulle. Et donc, les femmes encore fertiles sont mises à disposition des commandants, qui sont des hommes qui règnent, en fait, sur la société. Ces commandants sont mariés avec... ils ont une femme stérile. Et donc, les servantes sont là pour accomplir le travail de reproduction avec les commandants. Donc, il y a tout un cérémonial, tout ça. Et bon, je trouve ça assez... c'est assez atemporel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Ça a été écrit par Marguerite Atwood. Et ça pourrait se passer... c'est assez étrange quand on lit cette œuvre parce que ça pourrait être... Il y a des éléments où on se dit, tiens, c'est le Moyen-Âge. Et en même temps, d'autres éléments où on se dit, ah non, en fait, c'est pas possible. Il y a des téléphones portables, il y a des choses comme ça. Donc, c'est vraiment atemporel. Ça pourrait se passer n'importe quand. Et puis, quand j'entends parler de cette baisse de fertilité là un peu partout, parce qu'on en parle quand même beaucoup, voilà, ça résonne et c'est un peu angoissant, quoi. Mais c'est une super œuvre, c'est très bien écrit, ça résonne sur plein de points sociétaux, donc c'est riche. Et j'ai hâte de voir la série, parce qu'il paraît que la série est très très bien aussi. Voilà, c'est dystopique et féministe.
Et qui résonne aussi avec l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis.
Exactement.
Avec l'interdiction de l'IVG.
Exactement. Ouais, ouais.
Et du corps de la femme.
Exactement.
Du pouvoir de la femme de disposer de
exactement.
Son corps.
C'est vraiment la prise de pouvoir des hommes. Une prise de pouvoir. On revient sur cette volonté politique dont on parlait tout à l'heure pour faire la différence avec la science-fiction et la dystopie. C'est vraiment ça, quoi. C'est les femmes ne disposent absolument plus du tout de leur corps. Et donc, elles se rappellent comment c'était avant. Et c'est assez terrible, quoi, de voir. Donc, effectivement, la décision aux États-Unis fait écho à 100% à ce livre et à cette œuvre. Ouais. Donc, lisez ce livre.
Et toi, Mehdi, du coup, une dystopie à nous suggérer ?
Il y a beaucoup de choses à lire, à écouter, à voir dans tous les sens. Je sais pas, peut-être juste lire tout Philippe K. Dick. Je pense que ça fait du bien au quotidien.
Et enfin, dernière question, c'est quoi vos actus ? Vos prochains projets ?
Moi, j'ai en préparation deux pièces de théâtre pour la saison prochaine, notamment une sur justement les problèmes de fertilité au sein d'un couple. Une pièce qui a été qui s'appelle Le cas Garay, qui est inspirée d'un fait divers en Espagne. Et c'est l'histoire d'un couple, qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est l'homme, pour le coup, qui a des problèmes de fertilité. Et donc, ils sont tirés au sort par un laboratoire pharmaceutique pour participer à une campagne d'aide médicale pour retrouver la fertilité et réussir à avoir des enfants. Et puis, ça se passe pas bien. Et voilà, donc, c'est très engagé. C'est un projet très engagé. Je suis ravie de faire partie de ce projet. Pour le coup, là, seulement en tant que comédienne. Donc, ce qui est aussi... super. Voilà, j'ai hâte de me lancer dans ce projet. Et un autre projet avec le collectif, où là, ce sera écriture et mise en scène collective, mais pour l'instant, on n'en parle pas. C'est le début à voir. Et puis voilà, projet podcast certainement à venir. Là aussi, on verra à la rentrée en septembre. Mehdi ?
Oui, il y a quelques petites fictions qui vont arriver. Tout ça, je me suis mis un petit peu en pause, mais je vais publier plusieurs séries audio à partir de la rentrée, puis aussi une série animée bientôt et des petits épisodes courts. Enfin, il y a énormément de trucs sur lesquels je me suis bien amusé, qui arrivent prochainement à partir de août-septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un peu dans tous les sens.
Bah, merci en tout cas à tous les deux. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir donc cet épisode de Noises, Ami, donc écrit par Mehdi Bayad, réalisé par Nathalie Bernas et monté par Jean-Gabriel Rassa. Donc un épisode produit par Bababam. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode dans lequel on parlera de post-production cette fois, parce que c'est aussi une étape très très importante dans la réalisation d'une fiction sonore et du podcast en général. Je laisserai donc le micro à Justine Courtois, qui est la directrice de production, donc pour animer cet épisode. Merci à Laura Barbaret pour la préparation de cet épisode et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt.
Au revoir.
Salut.